Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce culte. Quelques petites annonces ou quelques rappels, parce que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu toutes ces informations, mais on veut s'assurer que c'est bien noté. Tout d'abord, notre colloque qui aura lieu le 27 septembre. Donc le colloque, hein, c'est notre réunion d'association, notre assemblée générale, on pourrait dire, à 20h. Hein, l'heure a changé, on a annoncé au début 19h30, ça sera à 20h pour que l'équipe pastorale puisse participer, parce qu'on sera avec les jeux d'en bas juste avant. Et aussi dire que, ben, venez, c'est important. Je ne vais pas vous mentir, hein, ce n'est pas des soirées où on s'amuse, ou voilà, ça c'était dimanche passé, on a passé beaucoup de bon temps. Alors Philippe s'amuse apparemment. Moi, voilà, honnêtement, ce n'est pas la soirée où je me dis yes. Mais ça fait partie des choses importantes de la vie. Je le dis souvent à mes enfants, hein, y a des choses qu'on fait parce qu'on a envie de les faire, c'est chouette, voilà, c'est amusant, enthousiasmant. Puis il y a des choses, il faut les faire. Voilà, cuisiner tous les jours, ce n'est pas toujours enthousiasmant, mais on le fait parce que c'est important, on a besoin de manger. Ben là, c'est une chose qui est importante pour notre Église. Y a des discussions, il y a des votations qui se font que dans ce cadre-là. Si vous n'êtes pas là, eh bien, vous ne participez pas à ces discussions et à ces décisions. Donc, venez, s'il vous plaît, le 27 septembre à 20h, si vous le pouvez, bien sûr. Redire aussi que les repas communautaires auront lieu à partir de maintenant, le dernier dimanche du mois. Mais il y a une exception ce mois-ci. Ce mois-ci, il n'y aura pas de repas communautaire, vu qu'on a déjà eu un culte de rentrée avec un repas, et puis dimanche passé, la journée d'église avec repas. Voilà, on voulait souffler un petit peu et vous laisser souffler. Donc ce mois, pas de repas en septembre. Aussi, vous rappelez que le concert du groupe Écriture a lieu dans un mois. Donc achetez vos billets si ce n'est pas déjà fait, le 18 octobre. Et aussi dire que je serai à la sortie pour ceux qui aimeraient acheter un billet juste là maintenant. Voilà, vous pouvez soit me twinter, soit me donner de l'argent en cash, soit me payer plus tard. Mais vous aurez la possibilité de le faire. Je pense tout particulièrement aux gens qui ne sont peut-être pas à l'aise avec l'ordinateur, qui préfère avoir une personne à qui parler. Je serai là dehors après le culte avec mon ordinateur. Et puis enfin, j'aimerais donner la parole à Paul Robert qui a des salutations pour nous.
Bonjour à chacun. Voilà, nous sommes de retour de notre périple en France qui nous a amené jusqu'à Poitiers. Poitiers, vous voyez, cette église où il y avait Flavien Légumini qui a travaillé pendant bien des années, jusqu'à une année en arrière, comme pasteur et implanteur d'église. Il a implanté cette église. On a eu leur visite il y a quelques temps et c'était Julien, vous vous rappelez peut-être, cet ancien patron de bistrot qui s'est converti. Et nous avons, avec l'animatrice, rencontré Julien, rencontré l'église, rencontré les responsables. Et l'église va bien, ils cherchent un nouveau pasteur, mais remplacer Flavien, c'est difficile. Et puis, ils nous transmettent à chacun, à l'église en particulier, leurs meilleures salutations. Ainsi, il l'a dit très fort, Julien, qui m'a dit j'espère qu'on va revenir par ici un de ces quatre. Julien, qui vous salue aussi tous bien, et pour ceux qui se rappellent de lui. Voilà, c'est ce que je voulais simplement transmettre.
Merci.
Et puis, ah oui, les Abruzzaises, parce qu'on l'avait vu en passant, pour les Abruzzaises qui sont donc près de Montpellier, qui étaient aussi pasteurs en France pendant des années, on a soutenu l'Église et la Commission Europe, et nous avons des salutations à notre retraite. Ils sont aussi venus ici prêcher, etc. Voilà, alors, c'est chose faite.
Merci beaucoup. Quel privilège de pouvoir se rassembler librement. Quel privilège d'avoir des frères et sœurs, des personnes sur qui nous pouvons compter, avec qui nous pouvons rire, passer de bons moments, comme dimanche passé, mais aussi pleurer, se lamenter, quand ça va moins bien. Quel privilège de pouvoir chanter, on va le faire juste après. Quel privilège de posséder une Bible, même plusieurs, de pouvoir écouter notre pasteur qui s'est préparé pour la prédication. Quel privilège de pouvoir suivre le culte à distance quand ça devient plus difficile de se déplacer. Que de privilèges, les amis. Moi, j'en parle souvent à mes enfants, hein, parce que c'est vrai, des fois, on a un petit peu tendance à se plaindre pour des petites choses, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, il faut encore faire une tâche ménagère. Et puis, voilà, moi, c'est dans cette saison, je suis souvent saisi, en fait, par toutes les choses difficiles qui se passent dans ce monde. Hein, c'est vrai que, voilà, alors malheureusement, les nouvelles souvent ne nous montrent que les choses qui vont mal, ou en tout cas en particulier les choses qui vont mal. Et c'est vrai que des fois, je vois ma vie ici en Suisse, puis je me dis, mais que d'injustice, que d'injustice, mais aussi que de privilèges. Et j'essaye dans mon cœur de rester dans un bon endroit, à la fois de reconnaissance par rapport à tout ce que j'ai, mais aussi en restant conscient de tous les besoins autour de moi, au loin, aussi proche parfois. Oui, vraiment, tous ces privilèges que nous avons. Et alors ce matin, soyons dans la reconnaissance. En disant cela, je ne veux pas minimiser les épreuves que certains vivent au milieu de nous. Nous prions avec vous pour que Dieu vous relève, vous soutienne, qu'il vous sauve. Mais il y a toujours de quoi être reconnaissant. Si vous êtes là ce matin, c'est déjà un sujet de reconnaissance. Donc bienvenue à chacun, bienvenue à chacune, les enfants, les plus grands, pour ce culte où on va prendre un temps pour chanter à Dieu notre reconnaissance et puis écouter sa parole. Et merci au groupe, à David qui s'est préparé pour ce temps. Pardon, c'est pas fini. Mais c'était pas préparé.
Mais je te demande comment tu fais pour écouter sa parole.
Ou alors je peux parler longtemps sur ce sujet, David. Deux mots, ok. Alors, en lisant la Bible, par exemple.
Et puis dans cette Bible, qu'est-ce qu'on y trouve ?
C'est encore à moi. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Philippe, c'est le monsieur juste là, si jamais. Voilà, pour les plus courageux.
Donc, dans les évangiles, il y en a quatre. Vous ouvrez à Jean. Jean, c'est parce que c'est quatre manières un peu différentes, complémentaires d'annoncer la vie de Jésus. Vous avez trouvé Jean ?
On est dans Jean.
D'accord. Alors, tu vas au numéro 15.
C'est une Bible pour les jeunes, c'est écrit très petit.
Le pasteur est très jeune.
Bravo. On y est.
Vous êtes à Jean 15. Ouais. Ça, c'est le chapitre 15. Et puis, dans les chapitres, il y a des versets après. C'est le verset numéro 15 aussi.
Si tu aimerais qu'on le lise.
Tu
es d'accord, le lis.
Il n'est pas souligné.
T'es d'accord, lui.
Il est souligné. Il est souligné. Tu peux nous lire.
Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père.
Merci. Donc Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai de mon Père. Et Dieu, le Dieu qui est au-dessus des rois, au-dessus des dirigeants, et bien il s'est fait ami de nous. Et voilà, on a cette chance d'avoir Jésus pour ami.
Toujours. C'est parti pour vous les enfants, et j'aimerais juste signaler aux grands, mais aux enfants aussi, que ce matin, je trouve qu'il y a un truc très touchant avec les enfants et leurs monos, c'est qu'on a, tu me permets Nicolas, on peut le dire, un vieux de la vieille quoi, quelqu'un qui a des kilomètres avec les enfants, qui a béni les enfants de cette église, et puis on a un débutant, c'est juste Kevin, et on est très heureux Kevin que tu rejoignes l'équipe. Et les enfants, vous êtes bénis avec Nicolas et Kevin, vous allez avoir un super moment. N'oubliez pas de raconter à vos parents ce que vous aurez vécu, et nous les parents d'aller interroger aussi un petit peu l'équipe d'animation. Nous poursuivons pour nous ce matin notre parcours dans le sermon sur la montagne. Ce sermon de Jésus, eh ben, il va nous tenir, j'espère, en haleine, mais surtout venir stimuler notre foi pendant quelques semaines encore. Nous avons commencé par le commencement, ce qu'on appelle les béatitudes, et ces derniers dimanches, nous avons évoqué les premières parties des béatitudes, et puis ce matin, on va finir cette partie des béatitudes avec les trois dernières. Et je vous invite à écouter la lecture du texte biblique, on peut le suivre aussi, je vais l'envoyer, mais n'hésitez pas à le suivre dans vos Bibles également.
Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé.
Merci Thierry, merci. Heureux, heureuse, c'est ce que nous sommes appelés à être, à devenir, c'est ce que nous sommes. Lorsque nous essayons de développer ces béatitudes avec toutes les tensions, et je vais en relever quelques-unes ce matin, que nous pouvons avoir devant un texte comme celui-ci. Pour commencer, heureux, heureuses, ceux et celles qui sont purs de cœur. Purs de cœur. Nos traducteurs disent souvent ceux et celles qui ont le cœur pur. J'aime le dire d'une façon un peu plus littérale, d'abord parce que le texte original le permet, le dire de façon un petit peu plus littérale pour que nous saisissions ici une nuance qui est en rapport avec les habitudes de l'époque. Mais des habitudes qui, vous le verrez, ont pu se prolonger jusqu'à nous. Heureux ceux qui sont purs de cœur. Les gens religieux du temps de Jésus, les gens religieux de notre temps, se préoccupent beaucoup de la pureté, comprise comme une nécessité pour le corps. Du temps de Jésus, il y avait des règles très strictes pour la pureté, particulièrement sur le lavement des mains, sur le lavement des objets. On pouvait se rendre impur simplement en entrant chez un non-juif, chez un autre croyant. On pouvait se rendre impur en entrant dans une maison où une femme avait ses règles, ou alors où quelqu'un était décédé et on se rendait impur. Et donc, on peut comprendre que le système créait un monde où il était très dangereux de fréquenter des gens réputés impurs. Cette préoccupation-là, du temps de Jésus, poussée à son paroxysme, et parfois de notre temps, dans le système, dans les systèmes religieux, on les retrouve encore. Cette préoccupation, elle remontait aux lois de pureté de l'Ancien Testament, des lois de pureté que vous pouvez trouver détaillées dans le livre du Lévitique en particulier. Et je vous passe les détails, mais il y a quand même des trucs assez saisissants, en particulier sur les rapports qu'on entretient dans un propre foyer. Et avec le temps, l'importance que l'on a portée à ces lois dites de pureté a fini par occulter les éléments essentiels de la loi. Élément essentiel de la loi qui commence par l'amour des autres. D'où de nombreuses controverses entre Jésus et les défenseurs de la tradition religieuse. Je me demande parfois ce que Jésus nous dirait en direct live en observant nos traditions religieuses, ce contre quoi nous nous élevons. Et Jésus dit, Matthieu 15, 10 à 20, qu'on ne se rend pas impur en mangeant quelque chose, qu'on ne se rend pas impur en regardant quelque chose, qu'on ne se rend pas impur en oubliant de se laver les mains ou en touchant un objet ou en entrant en relation avec quelqu'un de différent de nous. Jésus dit qu'on se rend impur par ce qui provient du cœur et qui se manifeste sur la place publique. C'est comme ça qu'on devient impur. Et il ne faut pas confondre. On ne devient pas impur par ce qu'on mange, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on touche. On devient impur par ce qui vient de notre intériorité et qui se manifeste sur la place publique. J'espère que cette petite explication nous permet de saisir cette nuance, la portée. Heureux ceux qui sont purs de cœur. Heureuses celles qui sont pures de cœur. Parce qu'en cas d'impureté rituelle, on peut laver tout le corps, il n'y a pas de souci. T'as transpiré, t'en as bavé, t'as vu des trucs qui t'ont abîmé. Un bon bain, une bonne douche, un sauna, ça passe. Mais qui viendra nous laver le cœur ? Être du bon côté, c'est avoir le cœur lavé, pur. Mais pur, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un premier temps, on pourrait penser à tout ce qui peut nous polluer l'intérieur. Je regarde ma vie, c'est vite fait. De la rancune, ça s'entretient. Certains souvenirs, des ambitions mal placées, des passions qui nous dépassent, des fantasmes déviants, une relation toxique. Pour que l'eau du robinet cesse d'être pure, il suffit juste d'un peu de nitrate, d'un peu d'argile, d'un peu de plomb. Il ne faut pas beaucoup de saleté pour abîmer notre intérieur. Mais dans un second temps, il faut aller au-delà de ces pollutions faciles à identifier, faciles à condamner, faciles à nommer. Le cœur pur, c'est un cœur qui est sans partage, qui est intègre, qui est cohérent, qui est d'un seul tenant. Heureux ces hommes et ces femmes qui sont intègres, qui sont droits, qui font de leur mieux, pas des gens parfaits, ou en tout cas pas les apparences de la perfection. Laissez ça au système religieux, laissez-leur ça. Mais heureux des hommes et des femmes qui font de leur mieux. Quand je prépare une prédication comme celle-ci, pour moi, je suis obligé de me poser la question du cœur partagé. Cœur pur, cœur partagé. C'est une question délicate. Hein. Parce que dans cette vie, vous et moi, on s'occupe de 36 000 choses. Regardez, pensez à votre semaine, juste un instant, juste cette semaine passée ou celle qui vient. On passe du travail à la famille, de la famille à l'entretien de la maison, de là au culte, au loisir, à la vie dans la cité, à la panne de voiture, à l'extraction dentaire, aux vacances. Notre emploi du temps, il est tellement morcelé. Et rien qu'en famille, rien que si on parle de la famille, on s'occupe de notre conjoint si nous sommes mariés, des enfants si nous en avons, des parents âgés s'il nous en reste, des frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents et autres pièces rapportées. On est tellement partagé. C'est tellement exigeant tout ça. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir venir donner une cohérence à l'ensemble? Qu'est-ce qu'il y a au cœur du cœur? Et je crois que pour un chrétien, une chrétienne, humble, normale, il n'y a qu'une seule chose, c'est le désir de plaire à Dieu, de l'honorer. Ce désir qui se transforme en prière, en chant, en tentative, en repentance. Le commencement de la sagesse, c'est ce que l'on appelait autrefois la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, Proverbe 1, verset 7. C'est-à-dire du respect pour Dieu, de la considération pour Dieu, la recherche de sa justice, de son royaume. Et le cœur partagé, eh ben ce serait ce cœur où Dieu est l'une des préoccupations parmi d'autres. Et ce ne serait pas en Dieu que tout trouve son sens, mais ailleurs. Ça, c'est un cœur partagé. Et je demande à Dieu de m'aider à avoir, moi, un cœur d'un seul tenant. Parce que ceux qui sont purs, celles qui sont pures, verront Dieu. Voir Dieu. Pas voir une représentation de Dieu, pas voir une image de Dieu, pas voir une idée de Dieu, pas voir une théologie de Dieu, pas voir une éthique de Dieu, voir Dieu. Et ça, c'est un truc étonnant. Comment est-ce que le grain de poussière que je suis pourrait voir la lumière de 100 milliards d'étoiles sans être pulvérisé? Comment un être humain pourrait-il voir Dieu et vivre? Ça, c'est dit dans la Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 20. Comment un être humain pourrait voir Dieu et vivre? C'est impossible! Ouais, mais la Bible dit que si c'est impossible, eh bien, il y a quand même autre chose. Elle dit, la Bible, personne n'a jamais vu Dieu. Ah ouais, ben voilà. Mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Autrement dit, quand le Dieu insondable, intouchable, tourne vers nous sa face, c'est lui que nous voyons. Et ce rayonnement de Dieu, ces 100 000 milliards d'étoiles qui pourraient me pulvériser, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce rayonnement de Dieu, c'est le Christ. Et le sens de la vie, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Et Jésus lui-même dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » C'était vrai du vivant du Christ sur terre et ce sera vrai pour l'éternité. Quand nous regardons les évangiles, quand nous regardons la croix, quand nous regardons la résurrection, quand nous écoutons Jésus parler, interagir avec des hommes et des femmes, c'est Dieu que nous voyons. Si nous voulons voir Dieu, il faut regarder Jésus. C'est pour ça que c'est tellement important que nous plongions nos regards dans les évangiles. Tout ce qu'il y a avant, ça prépare, ça annonce, ça prépare le terrain. Tout ce qui vient après, c'est de l'application. Mais le cœur du cœur, c'est les évangiles. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean écrit, « nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Nous savons. L'apôtre Paul écrit, quand Christ, votre vie, paraîtra, quand il reviendra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et dans l'absolu, ce n'est que là que nous aurons le cœur vraiment pur. Dans la pratique, nous tendons vers cet objectif dès maintenant. Nous nous confions à la grâce de Dieu, on fait de notre mieux. On sait qu'il nous aime, qu'il est patient. Et nous développons une sainte crainte de l'Éternel, une révérence pour lui. Heureux les artisans de paix, verset 9. Heureux les artisans de paix. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'empereur allemand Guillaume II a découvert l'horreur des tranchées en se rendant sur le terrain. Et il a dit « Das habe ich nicht gewollt ». Ça, je ne l'ai pas voulu. Mais oui, il l'avait voulu, bien sûr. En envahissant la Belgique, la France, comme Napoléon III l'avait fait avant lui, en cherchant la guerre avec Bismarck, comme Bismarck a voulu forger dans le sang une identité allemande, où Louis le Grand est ce roi qui a dit sur son lit de mort, ce sont ses derniers mots, « J'ai trop aimé la guerre ». Ben vous voyez, hein, la paix, c'est pas une valeur universelle dont nous rêvons. Dans toute l'histoire humaine, on essaie de glorifier la paix, puis c'est la guerre qu'on fait. Alors heureusement que la menace nucléaire a fait tellement peur aux Européens qu'à un moment donné, ils ont renoncé à se battre. Heureusement qu'à un moment donné, il s'est trouvé un chancelier allemand et un président français, tous deux marqués par la culture chrétienne, pour pardonner aux ennemis de toujours et commencer à construire la paix. Sinon, nous en serions toujours à chercher la gloire dans la fureur de la guerre. Le prophète de l'Ancien Testament a écrit « L'Éternel sera l'arbitre entre de nombreux peuples. » Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Et puis j'allume les infos, puis je fais ma revue de presse du matin, et puis je vois des réfugiés ukrainiens, des réfugiés de la région des Grands Lacs, au nord Kivu. Et puis dans quelques temps, je pars en Thaïlande, dans une région mordue par la guerre. Comme j'attends ce jour où l'Éternel y mettra fin. Le monde continue de dire « Heureux les grands conquérants. Heureux ceux qui construisent de grands empires. Heureux ceux qui se couvrent de gloire. » Il faut que je vous fasse une confession, elle n'est pas dans mes notes. Vous avez probablement suivi l'actualité cette semaine de ces beepers, pagers qui ont explosé, talkie-walkie, par milliers, hein, au sud Liban. Ma première réaction, c'était qu'est-ce qu'ils sont forts quand même, le Mossad. Purée, le truc qu'ils ont déployé. Et puis au bout de quelques heures, on a commencé à réaliser qu'il y avait des victimes civiles, des enfants, pas des combattants, des civils. Ma première réaction a été à la valorisation de la violence et j'ai dû demander pardon à Dieu. Et tout ça, c'est notre histoire. Heureux les grands conquérants, heureux ceux qui construisent de grands empires, heureux ceux qui se couvrent de gloire. C'est Alexandre le Grand et César et Poutine et tous les bâtisseurs d'empire après eux. Ça, c'est notre histoire à nous. La guerre de 100 ans, Napoléon, les guerres coloniales, l'esclavage. Même si nous aimons la paix, nous devons assumer à quelque part notre histoire guerrière. Faut-il promouvoir la paix à tout prix? Est-ce que la paix est une valeur, la valeur suprême? Dans les familles, dans les entreprises, entre les pays, dans la société, dans les églises. Il faut rapprocher cette parole du sermon sur la montagne et la tension qu'il y a là d'une autre parole de Jésus, où Jésus dit, celui qui appelle à la paix dit, et les gars, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Mince, je fais quoi de cette tension ? Autrement dit, d'après Jésus, il y a des combats pour la vérité, pour la justice, pour la liberté, qui sont tout à fait justifiés. La question, c'est de savoir avec quelles armes on les livre, ces combats-là. Parce que la guerre est une réalité humaine incontournable. Et en même temps, la guerre n'aura pas le dernier mot de l'histoire. C'est l'amour qui aura le dernier mot de l'histoire. Alors en attendant ce dernier mot, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour promouvoir la paix ? Il y a sûrement des trucs à faire. C'est quoi le climat de paix qu'on développe dans nos relations au quotidien, en famille, au travail, à l'église ? Nous pouvons nous montrer désireux de vivre en fils et en filles de Dieu, des enfants de la paix. J'arrive à ma dernière béatitude qui sera la conclusion. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice. Et encore une fois, dans ces béatitudes, c'est le monde à l'envers. Le bonheur, il devrait logiquement appartenir à ceux qui s'imposent par la force, sans avoir à s'occuper des autres. À ceux qui sont à l'abri de tout tracas, qui traversent la vie sans égratignure ni fracture. Ça, c'est des gens qui sont heureux. Puis Jésus, il dit pas ça. Il prononce ici une bénédiction pour ceux qui sont opprimés. Précisément pour ceux qui sont opprimés pour la justice. Parce que l'oppression en soi, ce n'est pas une bénédiction. Il faudrait être fou pour le croire, il faudrait être fou pour la rechercher, l'oppression. Mais quand la cause est la justice de Dieu, alors oui, l'oppression consacre ceux qui ont choisi la bonne part. Ceux et celles qui sont du bon côté de la barrière. Ceux qui ont misé sur l'éternité, ceux qui ont vu qu'il y avait quelque chose d'autre que l'immédiat, ceux qui ont un héritage dans les cieux, dit le texte. Fallait un caractère bien trempé pour l'affirmer. Alors que les lions allaient se jeter sur Blandine de Lyon. Il fallait un caractère bien trempé pour l'affirmer. Quand les soldats de Néron ou la police secrète de Staline frappaient à votre porte. Il faut un caractère bien trempé. Quand en Afghanistan, votre frère aîné vient vers vous un couteau à la main pour vous égorger. Il faut un caractère bien trempé. Quand la police nord-coréenne vient vous arrêter. Et que vous savez que vous passerez le reste de votre pitoyable existence dans un camp de travail. Faut un caractère bien trempé alors que vous entendez dans une cellule voisine les hurlements d'un homme qu'on torture dans un tunnel à Gaza, dans une cellule où Boko Haram enlève et tue férocement vos frères et sœurs en la foi. J'ai entendu le témoignage de survivants qui ont osé croire qu'ils étaient heureux, qui ont vécu comme un honneur d'être persécutés pour leur foi. Moi, je n'ai pas le droit de le dire. Jésus, lui, peut le dire, parce qu'il va passer par là, l'injustice, la violence, l'oppression. Tout ça en vue de la justice de Dieu. Il va passer par là pour que nous n'ayons pas à passer par là. Les martyrs des premiers siècles et de notre siècle ont le droit de le dire. Eux dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11, verset 38. Je trouve que c'est un signe extraordinaire du royaume qui n'est pas de ce monde. Vers l'an 200, un auteur latin, Tertullien, a écrit « Le sang des martyrs est la semence de l'Église. » Contre toute logique, les martyrs font pousser l'Église. J'arrive au bout des béatitudes et pour être honnête avec vous, j'ai souvent eu l'impression que cette dernière béatitude en particulier était assez déplacée. Et puis on peut comparer les textes, trouver dans le grec, il n'y a pas photo, c'est là, c'est présent dans tous les manuscrits, c'est facile à traduire. Et je me dis que peut-être cette béatitude-là, c'est le signe le plus fort de tout le reste. C'est la conclusion de tout le reste. Après tant de choses assez douces à entendre, la douceur, la justice, la bonté, la pureté, la paix, ben Jésus y conclut en insistant plus que jamais sur le grand renversement des valeurs qui caractérisent toutes les béatitudes. Et c'est un point de tension ici. C'est un point de tension. Parce que être doux dans ce monde, c'est compliqué, on y est appelé, mais il faut faire attention à ce qu'on met dedans. On disait à quelques-uns dans les jours qui ont précédé, être doux, c'est pas être paillasson. Jésus, il se définit comme doux et humble de cœur. Et pourtant, il envoie bouler ceux qui lui cassent les pieds. Et pourtant, il a besoin de temps pour lui tout seul. Et pourtant, il ne va pas résister à la violence physique. Et pourtant, il va donner sa vie. Et c'est un doux. Il y a des points de tension dans ces béatitudes, comme cette dernière béatitude. C'est donc, mes amis, que le bonheur n'est pas où on pense. Il est dans les valeurs éternelles du royaume de Dieu. Et tout le reste n'est que garniture. Et je sais que c'est un défi pour nous de vivre ces béatitudes de plus en plus. La bonté, la pureté de cœur, la paix, la résistance à l'oppression. Il n'y a rien de mou, il n'y a rien de naïf dans tout ça. Il y a un cœur résolu, il y a des choix coûteux. Alors que Dieu nous donne de les vivre et de les incarner de plus en plus, c'est une lutte, un défi, c'est contre toute logique jusqu'au retour du Seigneur. Parce que s'il n'y a pas de réussite facile, il n'y a pas non plus d'échec définitif. Alors même si deux fois n'est pas coutume, on va encore s'arrêter sur ce petit exercice spirituel. Je propose d'identifier la béatitude qui vous met peut-être le plus au défi ce matin, qui vous interpelle, et puis juste d'en faire sujet de prière, une résolution, l'occasion d'un témoignage avec votre conjoint, conjointe, un ami, un enfant. Donnez suite, comme vous pouvez. Dieu est bon, il nous accompagne. Juste quelques instants, vous essayez d'identifier une béatitude qui vous interpelle, puis vous en parlez avec Dieu, puis je conclurai ce moment. Cher Seigneur, moi j'aimerais te dire que nous souhaitons être des hommes et des femmes heureux, heureuses, du vrai bonheur. Et puis que nous avons, tous autant que nous sommes ici, besoin de toi. Pour que tu nous visites, pour que tu nous donnes du cœur à l'ouvrage, pour que tu nous soutiennes. Que tu nous rassures. Merci pour ce bonheur possible, accessible, auquel tu nous appelles. Et aide-nous simplement pour les exigences du terrain. Compte sur toi. On apprécie ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité. On apprécie le chemin ouvert par toi jusqu'à Dieu qui est devenu notre Père. Dans le nom de Jésus. Amen.
toutes ces prières dans la suite de ce moment de silence. Je crois que c'est avec humilité qu'on peut chanter le chant qui va venir. Si Roxane, tu peux le projeter volontiers. Et puis, je crois qu'on ne peut pas chanter ce chant avec des phrases conquérantes. On peut le chanter par humilité et par la foi. Que la foi, que vu que Jésus est venu, elle nous a donné tout ce qu'il nous a apporté, eh bien nous pouvons lui faire confiance. Et c'est réalisable. Ces béatitudes, elles sont réalisables. Quand la joie, quand le soleil m'inonde, et dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, eh bien par la foi, je veux te suivre. Par la foi, je te suivrai, Jésus, et je te remercie parce que tu es venu vers nous. Tu nous as envoyé aussi ton esprit.
Abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu
qui ont été désignées pour la Sainte Cène à s'approcher. Comment osons-nous, souillés, impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint ? Sa loi exige la perfection, on a entendu parler. Comment purifier nos cœurs, nos mains ? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité ? Chaque jour, nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées ? C'est par la croix où il s'est donné et par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus, nous tenons debout. Tout comme ce pain et ce vin, ces paroles nous rappellent ce qui a été accompli à la croix par Jésus. Nous ne méritons pas son pardon, mais il nous l'offre gratuitement si nous l'acceptons. Le pain représente son corps cloué à la croix, et le vin représente son sang qui a été versé pour nous. Ces aliments nous rappellent sa grâce immense, imméritée, infinie, pour chacun d'entre nous. Si vous ne désirez pas boire de vin, les petits gobelets au centre ont du jus de raisin. Et pour ceux qui aimeraient boire la coupe, vous pouvez simplement lever la main. Je vais prier et puis nous écouterons ce chant dont nous avons entendu un bout des paroles, par la croix du groupe Écriture. Je vous invite à écouter ces paroles et à en faire votre prière pendant ce temps. Merci Seigneur Jésus pour la croix, merci pour ton pardon, pour ta grâce infinie, imméritée mais tellement nécessaire. Seigneur, je ne pourrais pas me tenir debout sans ton pardon, sans ta grâce. Merci parce qu'elle est là et parce qu'elle se renouvelle chaque jour pour nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au milieu de nous ce matin. Amen. Oui, venez.
Trois fois saint.
tellement bon, on le réécouterait, n'est-ce pas? Mais une autre fois peut-être. Dans un mois, le 18, je ne sais pas s'ils le feront, celui-là en particulier. Mais c'est vrai que c'est un très beau chant. Nous allons maintenant prendre une offrande. Si je peux demander aux personnes qui ont fait la Sainte Cène avant de vous asseoir, merci, pardon. Un petit peu d'exercice. Merci beaucoup. Oui, nous allons prendre une offrande maintenant, une autre manière d'honorer Dieu, de l'adorer. Cette offrande sert à faire fonctionner notre Église et la mission qu'elle a. Sentez-vous libre de donner ou pas, tout particulièrement si vous êtes de passage parmi nous. Voilà, il y a vraiment beaucoup de liberté dans ce moment-là. Mais merci d'avance pour votre générosité. Nous arrivons au terme de ce culte déjà, au terme de la partie officielle. Il y a bien sûr toute la partie après pour les échanges, le café, qui est aussi importante. Hein. C'est important, les relations les uns avec les autres. C'est là aussi où on peut partager ce qu'on vit, entretenir nos relations, peut-être même prier les uns pour les autres. Donc on vous attend tout à l'heure à la sortie. N'oubliez pas que je serai là aussi pour ceux qui désirent acheter des billets pour le conseil d'écriture avec mon ordinateur. Je vais prier. Merci Seigneur, encore une fois pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour tous ces privilèges évoqués en début de culte. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir se rassembler dimanche après dimanche, librement, pour chanter, pour écouter ta parole, pour être là les uns avec les autres. Seigneur, merci pour toutes ces choses, qu'on ne l'oublie pas, et que durant toute cette semaine, nous puissions être conscients de ta présence, avec nous, en nous, et puis de toutes ces choses qui ne nous sont pas dues, mais que nous avons néanmoins, que nous puissions vivre dans la reconnaissance et dans la conscience de ta présence toute cette semaine. Amen. Bon dimanche à chacun, à chacune, et puis à bientôt.
J'ai les badges avec moi dans un...